18e Festival Longueur d'onde du 26 au 30 janvier 2022.
Festival de la radio et de l'écoute, Brest.
Investigation et prise de risque avec Morgane Large, Caroline Trouillet, Gwen Vaël Delanoë, animé par Grégoire Souchet.
Bonjour, Bonsoon et Demats. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes pour cette table ronde investigation et prise de risque pour les journalistes. Je m'appelle Grégoire Souchet, je suis journaliste indépendant en Aveyron et j'ai le plaisir d'animer ce débat parce que quand on pense au sujet de la prise de risque des journalistes, on évoque souvent les journalistes de guerre. Plus récemment, on a eu la visibilité des journalistes en manifestation et dans les conflits sociaux. Mais il y a effectivement un aspect de la question de la prise de risque aujourd'hui, c'est quand on fait de l'enquête, et notamment quand on fait de l'enquête là où on vit, ou en milieu rural, quand on fait de l'enquête sur l'agroalimentaire, ou des questions liées à certains lobbies et certaines puissances qui sont parfois importantes sur des territoires. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir donc sur cette table ronde trois enquêteurs enquêtrices. Morgane Large, donc journaliste pour Radio Case Braise, RKB.
Case Braise.
Centre-Bretagne.
Bonjour.
Qui s'intéresse depuis bientôt 20 ans, c'est ça, à la question des sujets agricoles dans son territoire, donc le Centre-Bretagne.
Ah oui, je suis un peu forcée, hein, parce que c'est quand même le nerf de l'économie là où je vis, l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, mais après, c'est quand même des sujets que j'ai choisis, ça m'intéresse.
Et qui a été, depuis quelques mois, années, mise en lumière sur les médias nationaux suite aux mésaventures que tu as vécues. Alors peut-être juste pour faire un sondage dans la salle, qui a eu vent et est au courant de ce qui s'est passé pour Morgane Large?
Bon, c'est super tout le monde, donc je vais
très
pas
bien
répéter.
On va gagner du temps. Donc voilà, on va passer sur l'épisode de la roue et tout ça. On pourra raconter brièvement. Avec elle, Caroline Trouillet, journaliste pigiste. Bonjour.
Bonjour.
Caroline, c'est toi qui a mené en grande partie la première enquête de Splaon, média breton, qui est également représenté ici par Gwen Vaël, Delanoë. Donc cette ONG, ce plan d'investigation en Bretagne, on va parler justement de pourquoi créer cette ONG. Qui ici sait ce qu'est ce plan?
Bravo.
Une salle très au courant. Et puis, puisque Splaon est un média franco-breton, une partie des interventions seront traduites en breton par Erwan Blanchard, qui est ici, qui est journaliste également pour le réseau des radios bretonnes. Merci beaucoup. Alors, histoire de se mettre dans le bain, je voulais vous proposer pour commencer d'écouter un extrait de RKB, de l'émission La Petite Lanterne, l'émission de Morgane Large, un extrait qui date du mois de mai 2021 et qui est à propos d'une fuite de lisier et d'une manifestation suite aux pollutions engendrées par cette fuite de lisier.
Alors, je vais vous demander de vous présenter.
Oui, donc je suis Philippe Braz, le président de la PPMA du Pays de Morlaix, association agréée pour la protection des milieux aquatiques. C'est la grande interrogation. On ne veut pas stigmatiser quoi que ce soit, bien au contraire, parce que moi personnellement, et puis mes collègues, on a un profond respect pour l'agriculture qui est quand même bien implantée, qui est une source de richesse économique ici. On n'a pas le droit de stigmatiser telle ou telle corporation. Mais c'est vrai que c'est la grosse interrogation. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu intervenir plus tôt? Voilà, avec les services de l'État. Voilà, c'est la grosse interrogation que l'on se pose.
Et l'intervention, elle consiste en quoi? On bloque la pollution? On met des bouées sur la rivière? On fait quoi?
Oui, je pense qu'ils auraient le pompage, peut-être empêcher que l'écoulement avec des bottes de paille, des ballots de paille, comme
ils ont fait ça.
Ils ont fait ça, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Le mal était fait quand ils sont intervenus. Parce que justement, il aurait fallu prévenir. Bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut qu'on assume les conséquences de ce qui est arrivé. Donc, À nous de travailler autour d'une table avec les principaux concernés, dont le monde des éleveurs, parce que je fais le distinguo entre l'agriculture et les élevages intensifs. Je pense que c'est pas du tout, on joue plus du tout dans la même cour, quoi. L'agriculture, c'est l'agriculture, les élevages intensifs, c'est des industriels de l'élevage. Donc je pense qu'il faut qu'on rencontre leur corporation avec les services de l'État, avec les préfectures, et qu'on se mette autour d'une table pour qu'on ne connaisse plus jamais ce type d'événement. C'est trop dramatique. Malheureusement, ces événements sont de plus en plus récurrents, aussi bien dans le Finistère, dans le département, que dans les départements d'à côté, et également sur la région Bretagne.
Alors, je contextualise juste un petit peu. Il me semble que cette manifestation elle est intervenue le 1er mai. On est à Tolé. C'est dans le Léon. C'était la première fois qu'il y avait dans le Léon une manifestation pour l'écologie. Ça n'était jamais arrivé avant. On est dans un territoire très particulier dans le Léon. La porcherie en question, c'est une porcherie qui avait appartenu au fils de Alexis Gourvennec. Donc ça rajoute encore un petit étage. Et moi, j'avais choisi d'aller couvrir aussi cet événement parce que, bon, déjà, je l'ai trouvé assez courageux quand même, les gens qui osaient à visage découvert dénoncer cette pollution. Et puis qu'il y avait une équipe de M6 qui voulait me filmer. Et j'avais très envie qu'on parle de la pinzée. Et je me suis dit, c'est super, je vais emmener un média national avec moi. Et comme ça, ça va faire du bruit. Et en effet, ça a été repris par plein de médias parce que c'était une pollution. Je crois qu'il y avait entre 50 mètres cubes et 100 mètres cubes de lisier. Mais c'est une pollution. Ils disaient, ce sont des pollutions un peu chroniques. C'est plus du tout accidentel. Les amendes sont beaucoup moins punitives en fait que tout l'argent qu'il faudrait dépenser pour se mettre aux normes et pour revoir toutes les fosses. Donc les pollutions arrivent de plus en plus souvent sur ces territoires-là.
En quoi c'est risqué, justement? Qu'est-ce qu'il y a de particulier au fait d'avoir une manifestation quand il y a une pollution? Ça se trouve dans d'autres endroits. Bon, il peut y avoir des pollutions accidentelles, j'en manifeste. Pourquoi c'est si difficile? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de particulier?
Parce que c'est le pouvoir, hein. C'est-à-dire que le monde agro-industriel, il a entre les mains la vie des gens, puisque ce sont les emplois, et ça, et la vie des gens, et puis ensuite, pour les gens qui sont en élevage, par exemple, je pense aux gens qui sont en élevage de poulets, ils ne peuvent pas se permettre de critiquer le monde coopératif ou le monde industriel, qui est d'ailleurs assez solidaire, parce qu'ils vont avoir tout de suite... Et c'est arrivé à des gens qui faisaient du syndicalisme, des répercussions et des pressions. C'est-à-dire qu'on va leur livrer un aliment qui va être défectueux, donc ils vont avoir des conséquences économiques. On va leur livrer un lot d'animaux aussi mauvais. Enfin, je pense à des poussins qui vont mettre du temps à grandir, qui vont être malades. Pareil, il y a des conséquences économiques. On va leur faire durer les vides sanitaires dans les bâtiments entre deux lots beaucoup plus longtemps. Donc ces gens-là, ils parlent en off. Mais à visage découvert, c'est très très compliqué de les faire parler.
Et justement, là, on est sur une radio associative. Comment on fait, justement, quand on travaille là sur un sujet comme ça? J'imagine, tu te rends à la manifestation, tu interroges les gens, mais comment on fait pour obtenir des témoignages? Parce qu'on entend les voix, on peut reconnaître les personnes.
C'est sûr que la radio, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour anonymiser les gens. C'est pour ça aussi qu'on travaille pas que sur le média radio, enfin tous, hein, on a touché à plusieurs médias et notamment la presse papier qui est très pratique pour donner l'anonymat. Ensuite, moi mon métier c'est de parler aux gens. Hein. Le jour où les gens ils me parleront plus, je ne pourrai plus exercer mon métier et c'était tout aussi tout le problème de d'être journaliste local et d'être sur un petit territoire et d'avoir des ennuis, enfin d'avoir des pressions. On noue des relations de confiance avec les gens. Quand on diffuse leurs paroles, on les trahit pas. À force, on a un gros réseau, on a aussi un gros répertoire téléphonique, et on peut, on nous répond. Enfin, moi, les gens, ils me répondent maintenant au téléphone. Alors, ça m'arrive, hein, ça m'arrive. J'ai eu une pression dernièrement par téléphone. J'ai appelé un très grand groupe agroalimentaire qui a le monopole sur un marché. Je pouvais pas, si je voulais traiter de ce sujet-là, je pouvais pas passer à côté d'eux. Et d'abord, première chose, la personne m'a dit qu'on ne vous a pas commandé d'article. J'ai dit, c'est un peu le principe. Hein, je travaille pas, je fais pas de la communication. Je travaille pas sur commande. Parce qu'ils voulaient pas me répondre. Après, j'ai dit, bah, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je dirais que vous n'avez pas voulu répondre à nos questions. Et là, il m'a dit, ah, mais si vous faites ça, je vous attaque en diffamation. Si notre nom apparaît, je vous attaque en diffamation. Donc là, je dis, bah, je sais pas, qu'est-ce que j'écris, enfin, donnez-moi la formule magique pour pas avoir d'ennuis, parce que les ennuis, on court pas après. Et là, il m'a dit, ah, non, mais je vous préviens que si notre nom apparaît, vous aurez de sérieux ennuis. Voilà, comment on travaille. J'ai pas la solution.
Alors, comment on travaille ? Il y a une question, c'est aussi de se mettre en groupe, en collectif. Ça peut aider à se soutenir, en tout cas. Caroline, c'est toi qui as mené aujourd'hui l'enquête, la première grande enquête de Splan, donc sur la question de l'ammoniac en Bretagne. Est-ce que tu peux raconter comment tu as travaillé sur ce sujet qui était lui aussi assez tendu ?
Alors, je dis « on » parce que effectivement, j'ai travaillé en grande partie sur cette enquête, mais j'étais pas toute seule. Il y avait tout le comité éditorial de Splan avec moi, derrière moi. Et en fait, on a décidé de s'intéresser à l'ammoniac à travers une enquête de terrain qui a commencé à Saint-Malo autour d'un industriel qui s'appelle la Timac, qui est une usine du groupe Roulier, un géant de production d'engrais azotés. Avec cette situation particulière locale d'une pollution à l'ammoniac issue en fait de l'activité industrielle de la Timac, les cheminées des usines avaient rejeté beaucoup d'ammoniac et au-delà des normes autorisées. Donc depuis déjà une dizaine d'années, voire plus, les riverains, les associations environnementales à Saint-Malo étaient très préoccupés par cette situation. Donc il y a eu un long travail d'enquête vraiment sur Saint-Malo et ensuite on a décidé de prendre un peu de hauteur pour regarder la situation à l'échelle de la Bretagne de cette pollution-là à l'ammoniac avec une réalité particulière, c'est que c'est à elle seule, la Bretagne émet 17% des émissions nationales. Voilà. Il y avait nécessité, on trouvait de faire une enquête aussi qui explique cette situation à l'échelle régionale. Voilà.
Et comment vous avez travaillé à Splan sur justement voir à l'échelle régionale, parce que j'imagine qu'aller trouver les données. Alors, il y a les données publiques, mais il y a peut-être des données d'entreprise. Comment on enquête, comment on va creuser ce sujet-là, quand en face, on a un secteur qui n'a pas forcément envie de parler ?
Il y a un peu deux phases dans cette enquête. Comme je le disais, le travail de terrain à Saint-Malo, où là, il s'agissait aussi de trouver des témoignages de salariés actuels ou d'anciens salariés. Donc, je me suis heurtée à la difficulté aussi d'avoir la confiance des sources et de trouver des solutions aussi pour leur permettre de témoigner de façon sécurisée. C'était compliqué parce que Roulier est un acteur très important à Saint-Malo aussi du monde économique. C'est le premier employeur de la ville. Et donc il y a quand même une omerta autour de son activité. Et donc certaines personnes pouvaient prendre des risques en témoignant, même en étant ancien salarié, parce qu'en fait, c'est tout un système où il y a des. Tout le monde connaît un peu Roulier, et voilà, j'ai souvent entendu je peux pas parler parce que je vais prendre des risques pour mes proches ou je peux perdre mon travail. Donc voilà, et ensuite. Sur la cartographie qu'on a pu faire des données d'ammoniac à l'échelle régionale, ben en fait, on a beaucoup été chercher tout ce qui est en source ouverte sur Internet. Il y a déjà beaucoup de choses. Des inventaires qui sont réalisés par l'association Surveillance de la qualité de l'air. Un site qui s'appelle Géorisque, où en fait les éleveurs, enfin les chefs d'exploitation plutôt, et les industries sont chargées de notifier, de déclarer chaque année leurs émissions polluantes, dont l'ammoniac. Donc voilà, on s'est basé là-dessus. C'est trop partiel, ça donne une image partielle, puisque c'est du déclaratif, en fait. Et puis en plus, les déclarations sont faites à partir d'un seuil de 10 tonnes, tout ce qui est en dessous, on ne sait pas. Et ensuite, on a été chercher aussi des données académiques, scientifiques, parfois assez loin, parce qu'en fait, il faut aussi aller chercher des choses qui sont écrites en anglais. Notamment, on est tombé sur une enquête qui a été publiée aux États-Unis, qui était très intéressante, qui C'était une des premières études en fait, à faire un lien direct entre une mortalité aux États-Unis liée à la pollution de l'air par l'activité agricole. En France, il n'y avait pas eu de recherche publiée telle qu'elle. Et voilà, ça suppose aussi d'aller chercher des choses écrites en anglais. Ensuite, il faut confronter toutes les données qui sont publiques avec. On sait qu'il y a des angles morts, on sait pourquoi. Et essayer d'aller chercher ce qu'il y a derrière ces angles morts au maximum, quoi, pour aussi être clair quand on présente une carte, une cartographie, dire bon, voilà, ces données sont partielles parce qu'on sait que tel industriel ne déclare pas ses émissions et pour quelles raisons il y a aussi cette flexibilité voire impunité qui existe.
Alors je vous propose d'écouter un autre extrait, donc c'était sur France 3 Bretagne, c'était mi-juin. Et donc Caroline, tu étais invitée justement de l'émission, émission où réagit un responsable agricole à la fin.
Alors la France doit réduire les émissions d'ammoniac de 4% à partir de 2020 par rapport à 2005 et d'ici 2030, il faudra les baisser de 13%. L'ADEME a aussi publié un guide de bonnes pratiques à destination du secteur agricole, mais en fait, il n'existe aujourd'hui aucune contrainte pour les agriculteurs, ni taxes, ni rien. Et puis les objectifs d'ici 2030 sont assez faibles, hein. Le sujet de l'ammoniac, lui, est bien identifié par les agriculteurs. Ce gaz est en effet donc issu à 99% de l'activité agricole en Bretagne. Ce matin, il y avait donc une réunion de crise à la Chambre d'agriculture en réaction à votre enquête. Nous avons interrogé le principal syndicat agricole. Voici sa réponse.
Le problème de l'ammoniac, effectivement, est une question que les agriculteurs ont déjà pris à bras le corps depuis de nombreuses années. Et dans les exploitations agricoles, à chaque fois que l'on investit dans du matériel, qu'on rénove des bâtiments, effectivement, c'est quelque chose qui est pris en compte et à laquelle chaque agriculteur apporte des réponses.
Voilà, donc le responsable de la FDSEA, hein, si je ne me trompe pas.
Oui.
Une petite réaction peut-être à ce discours.
Oui, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai appris en allant sur le plateau de France 3 qu'il y avait une réunion de crise à la Chambre d'agriculture le jour même. Et il y a eu aussi un communiqué édité par la FDSEA. Intéressant dans le sens où ils nous disaient bon, bah voilà, votre enquête, c'est un peu rien de nouveau, quoi. C'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Mais justement, depuis les années 90, il y a un chercheur, on a retrouvé un document qui a fait une enquête sur l'ammoniac dans la région d'Inan en disant déjà, dans les années 90, il faut faire des études épidémiologiques, il faut qu'il y ait des talus, il faut prendre au sérieux cette question-là parce qu'il y a une pollution à l'ammoniac qui est très soucieuse. Et donc on est en 2021 et la FDSEA dit c'est quelque chose dont on est bien au courant et on met en œuvre des actions. Non, l'ammoniac en fait n'a pas baissé en Bretagne, il est même en augmentation de 3%, de 1% dernièrement. Donc pourquoi est-ce qu'on en est encore là et si effectivement la Chambre d'agriculture ou le syndicat est bien au courant de cette situation, pourquoi ça ne change pas ? Donc, c'est une manière de délégitimer notre travail qui n'a pas grand sens, quoi.
Alors, Gwenvael, pourquoi mettre son nez là-dedans ? Pourquoi, quand on est journaliste, on se dit « Tiens, si je crée une ONG pour aller enquêter sur l'agro-industrie en Bretagne, notamment qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était nécessaire d'aller créer Splend ? Donc qui n'est pas en tant que tel une structure de presse, un journal, mais une ONG, hein, c'est bien un statut particulier. Pourquoi être allé dans ce domaine, dans cette direction-là ?
Erfin, Hande Gogel, Beson, puis le Québec Lévé, qui met ses bas longueurs d'onde, Bétéguin. Erfin et Gannets Plan, Urbloisso, Blanc Mawa de The Urvank, Brie, ça fait de cassette année, juste voir.
Gwenvel de la Noé.
Et Ron Blanchard, Casetanaria.
Je vais parler en français ce coup-ci, malgré tout. Donc, c'est vrai que ce qu'il a en introduction, c'est une grande première pour peut-être longueur d'onde, entendu breton, à l'occasion de ce festival. Et c'est vrai que le Splend, c'est un média en français, mais aussi en breton, parité. Et donc la création de ce plan vient aussi d'un besoin que certainement la population et un manque pour moi, même les journalistes en Bretagne, donc d'avoir un média d'investigation sur des sujets tels que traités.
Vi displegrammad är fin i buso bern kazetenu babris chanson nus ganzi buso kazetenu bras gis west france peut en telegram men hier rival gis france tri buso bern mais peso pa vezero la bour de badia bas redaction monse doire le help is mus gade so begade non lo da hanomie nus kedam sach de von de en klask van daschen nus kid ragedo le nieu pa genou bemdi a zi a laqué et a fin sa prévent grand ne ce qui commencé à une classe coupe brasse bah brise blanc de conditions nous labour à gazetinerien y est quoi.
Donc en Bretagne on a quand même beaucoup de chance parce qu'il y a pas mal de médias écrits etc, des médias locaux, mais ce que dit Gwenvel, donc c'est les journalistes qui travaillent pour West France, Telegram et tous ces médias là n'ont pas forcément le temps de mener des enquêtes comme ça peut être le cas avec l'enquête sur l'ammoniac, même si bon, ça progresse un petit peu, donc il n'y a pas le temps parce qu'ils ont un travail quotidien, ils doivent remplir des pages, quand vous voyez les pages de West France, elles sont assez importantes quand même, donc c'est aussi un autre métier, donc c'est un manque profond qu'il y avait en Bretagne.
C'est tu n'as pas la voix de Genim Gazplan et Afin Rey Amzer, Rey Aaron, vid ma vie chez Kazetenien, Roed, Hermis, vis de labour de Kazetenien, zo, d'over labour, betege fin, mais de Agenral, mais la rigoude, ma personne.
Donc c'est pour ça que ce plan a été créé, c'était aussi pour donner la possibilité aux journalistes de travailler sur le long terme, de pouvoir enquêter sur 6 mois, voire plus, pour pouvoir. Créer des enquêtes comme ce qui a été fait par ce plan.
En étant
rémunéré correctement aussi. Je pense que c'est aussi un des objectifs de ce plan. Donc.
Ag undra zo abuespen me mestra ag zo liamet ga tout de pismon au l'air hein. Guiri et start yé pavezer kazetener dieu petamon diabars. Quand c'était nous bras, il y a que j'ai le diabète en agro-business, pas brise. Qu'un bras, il y a en Danvis, qu'un puissus, la combe de square à Roperle, la Coperle, au Jean Arvor, Jean Jdine et en Ambreguerès, Kent, bon département. C'est-tu statric qui s'y dictri en Danvis, à Gavéchou et. Avechou et Helbou de Risclus a fait de labour, monde d'un en classe, voire certes d'Avechou, et vite guire. Vous autres travaux d'agonta, comptez de vous voir l'air.
Donc le sujet de l'agroalimentaire notamment est assez sensible, notamment dans les Côtes d'Armor. Gwenvel vient d'évoquer le cas de la Coperle, qui est un des plus grands employeurs du département. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a besoin aussi d'être protégé en fait pour les journalistes, qui sont peut-être plus protégés par ce plan et pour pouvoir mener l'enquête.
Comme vous disiez, je vois des visiteurs, mais risque-lou à elle bout de 8 gopres à Gazetinéen, 8 ma pavézer au labour de Square, un d'envis récits, à d'un de son apis à Nakemad, qu'on a labour de voir, à Gazotra, à Nakemad, à Goudizé, et à elle, quand on a labour de voir, pavéz d'Agastitou. Et si au Charles même strap avait zéro la boîte, ne ce qui m'y a dit tout au Renem Gavout, bouzo de zé, bouzo de ze, vite casetine rien dieu, ne l'onke avait chou at cavou de la bourrier. C'est tu avais chou et Helbout start vite Bernabego.
Donc c'est vrai que le travail d'enquête comme ça peut être dangereux, notamment pour les journalistes qui le mènent, ils peuvent être blacklistés, ça arrive par les journaux qui peuvent les embaucher autrement, au quotidien. Il y en a qui ça arrive. Et autrement, qu'est-ce que
c'est la Bordeaux,
ouais. Voilà. Et aussi, donc, on peut être aussi puni en fait par les chambres d'agriculture si quand on travaille sur les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, donc ils peuvent aussi ne plus envoyer des renseignements, des actus, etc.
Je peux donner un exemple,
Andrei, Morgan.
Par exemple, enfin là, ça pour vous montrer qu'il n'y a pas que nous, enfin. Dernièrement, il y a eu quand même quelque chose de très intéressant qui s'est passé entre France Bleu Brésisel et le stade brestois. Alors moi, je ne m'intéresse pas du tout au foot, puis là, d'un coup, ça m'a intéressé. J'ai appris que France Bleu Brésisel n'était plus le bienvenu aux conférences de presse du Stade Brestois avant les matchs. Ils étaient punis pour un an. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils avaient dénoncé une petite fête qu'il y avait eu dans les locaux des propriétaires du Stade Brestois, qui sont les frères Le Saint, qui sont des agro-industriels de la région de Plabennec. Je dis des bêtises, non ? C'est à peu près ça ? Bourblanc. Il y a eu une fête parce que ces deux frères, ils ont et le Stade Brestois de football et aussi le club de handball dont l'équipe féminine est très forte. Et l'équipe féminine revenait d'une compétition dans l'Est. Il y a eu une grosse teuf sans protection, sans masque. C'était l'année... Elles ont été championnes de France. Merci, c'est notre journée sportive. Et à la suite de ça, il y a eu un cluster. Et qui est-ce qui a parlé du cluster en premier ? France Bleu. Donc France Bleu, privé, puni pour un an. C'est eux qui donnent les règles, c'est eux qui disent comment ça va se passer. Puni pour un an, non, pas de conférence de presse quand même. Pardon ? Ça a été réglé, vas-y.
Non, donc les journalistes de France Bleu sont les bienvenus à nouveau au Stade Brestois.
Ah oui, parce qu'ils ont, rappelés à l'ordre quand même, le Stade Brestois. Le Stade Brestois a été rappelé à l'ordre par le syndicat des journalistes sportifs.
Alors il y a cette histoire, après il n'y a pas... Il n'y a pas un tropisme breton particulier où il y a la fermeture des portes face à l'investigation. Il y a d'autres exemples en France. On peut penser au travail, je les cite, Hélène Servelle, qui a travaillé sur les conditions de travail dans les travailleurs saisonniers dans le Sud-Est. On peut penser à Louis Viter, qui travaille, lui, sur Calais et la question des travailleurs, des sans-papiers et des migrants vers l'Angleterre et de ce que fait la police là-bas, en déchirant des tentes, etc. Il y a aussi ce qui s'est passé avec la loi sécurité globale. Il faut quand même rappeler le nombre d'agressions qu'il y a eu durant cette mobilisation contre les gilets jaunes. Je me reprends. Il faut quand même rappeler le nombre d'agressions qu'il y a eu de journalistes durant les mouvements sociaux des dernières années et cette loi sécurité globale qui restreignait fortement la liberté de circulation et de travail même des journalistes et au-delà de tous les reporters et documentaires indépendants dans les manifestations. Néanmoins, il y a quand même une question qui se pose et on va écouter un dernier extrait, c'est... Finalement, quand on fait tout ça, on va dans un sens, on va essayer d'expliquer, de démontrer aussi certaines filières, certains mécanismes. Mais est-ce qu'on se planterait pas ? Je vous propose d'écouter Georges Gaillardon, responsable de Triskalia.
Les journalistes sont là pour divulguer de la vraie information et pas pour cracher du venin. C'est la xème fois qu'elles menacent donc les responsables de coopératives, les élus. C'est un comportement qui n'est pas digne d'un journalisme. Est-ce qu'elle veut se faire un nom au travers de ça ? Parce qu'aujourd'hui, Madame Large, ici, personne ne la connaît. Donc aujourd'hui, elle veut peut-être se mettre en avant en tapant sur le dos des autres. C'est du harcèlement.
Vraiment, je la pose en blaguant, mais quand même, c'est une question. Et si on se plantait ? Et si ça se trouve, s'ils faisaient vraiment des efforts, cette agro-industrie bretonne, et qu'on s'en prenait vraiment beaucoup à eux, alors qu'il y en a quand même bien pire qu'eux ? Qu'est-ce que tu en penses, Morgane ?
Ici, on se plantait. Alors, je suis persuadée, oui, qu'en effet, ils font des efforts pour rattraper les consommateurs à tout point de vue. Enfin, tous, hein, ils font énormément de greenwashing. Ils font parfois même du brazewashing qui est insupportable parce qu'ils utilisent des noms bretons à tout va et personne ne parle breton là-dedans et personne ne défend la langue bretonne. Voilà. Moi, je menace et je harcèle. Mon outil de travail, c'est quand même un micro. Enfin, je suis pas gaulée en plus comme une catcheuse, quoi. Enfin, je menace, je harcèle. Non, mais le problème, c'est que ils ont écrit un roman régional agricole. Ils continuent d'ailleurs par leurs organes de communication qui sont à leurs mains. Hein, la presse agricole, elle est intégralement aux mains des coopératives, des grands groupes et des chambres d'agriculture, ils continuent de distiller cette espèce de fable qui est magnifique en évacuant tous les problèmes. Ils nous disent mais il y a des harceleurs qui disent que la Bretagne est polluée. Mais enfin, mais c'est pas vrai, sinon on n'aurait pas gagné autant de population. Enfin voilà, vous voyez bien que la Bretagne n'est pas polluée. Enfin, ils ont des arguments terribles. Et puis l'argument de dire cette femme, elle cherche à se faire connaître, il dit même pas femme, il dit Madame Large. Ça me fait penser à Patrick Poivre d'Arvor, lorsque les premières femmes ont, ont commencé à dénoncer les atteintes qu'elles auraient subies avec Patrick Poivre d'Arvor, et il y a eu des gens très mal intentionnés qui ont dit qu'elles avaient sans doute un bouquin à vendre. Moi, je trouve ça incroyable, quoi.
Il y a quand même une inversion, effectivement, de la charge.
Mais c'est toujours eux les victimes, évidemment. Oui, oui. Ce sont toujours eux les victimes.
Et c'est les journalistes, les harceleurs. Alors ouais. qu'on rappelle quand même, hein, toi, tu as subi du harcèlement, des menaces, des choses comme ça, directement jusqu'à même chez toi.
Oui, moi, j'ai jamais pénétré dans un élevage sans y être autorisé. Je vais pas dans les usines non plus sans y être autorisé. J'ai l'impression que je fais de manière assez réglo mon boulot, quand même.
Gwenvel.
Yeah, rends-moi juste là, ma vie, j'ai compris, ma triskalian et zo dut de vous dans une mergueresse, bras pontus, zo vraiment eurédené en eau, a rend un peu million à euro, zo beroet, a fait de action nous, et fin, gant a rend vro, de la rédé, et a rend public, vraiment, a rabers de zon mergueresse, c'est une équipe ne se force plus.
Donc aujourd'hui, donc faut savoir que l'argent public aussi intègre ces grands groupes-là comme Eureden, enfin Triskalia.
Ah, on y voit au Cogil du
Tri, ouais, Triskalia, Gallardon, Centre-Bretagne d'ailleurs.
Est devenu Eureden quand ils se sont fusionnés avec Dossi. Eureden, c'est du breton d'ailleurs. Hein, c'est d'ailleurs un mot breton génial que personne n'utilise. Donc, ça n'existe pas. Ouais. Ils ont inventé un mot. Eured, c'est les noces, et eux, ils ont fait un singulier à partir d'un pluriel.
Enfin. Ferait une mariage si vous voulez en français quoi.
C'est beau, ça fait breton.
Oui, oui.
C'est bon, le breton.
Donc il y a 5 millions d'euros d'argent public.
Action, nous.
D'action, l'eau des nous, quoi. Qui ont été versés par la région à cette entreprise.
Ça l'a aidé vraiment, et même intérêts, tout.
Donc c'est les mêmes intérêts, privés, publics et...
Puis a fait démocrate, elle, bon, Bouzo Gouleno de Zévelier.
Ce qui pose des questions démocratiques, quoi.
Mais de Ronma Ouspenendra, de Dieu Aben en Intersardenzi, et de Jojdin Braouigawar, a filmé des Benondin Galardon, au Tufa Ousmorgan, juste à 31, pour qu'il se dîne, ou à des Européens d'Ossara, hein, l'air ma biche écrivait litige.
Donc l'interview de Galardon a été filmée. Ce que trouve intéressant Gwenvel, c'est que derrière Galardon, enfin Georges Galardon, pardon, donc il y a tout un tas de dossiers, avec un dossier litige. Ouais, un gros, très très gros. Enfin, gros.
Comment on fait aussi pour se protéger? Soit on protège ses sources, ça c'est... On va dire qu'on sait le faire dans notre métier. Mais se protéger soi, c'est un enjeu. Aussi un enjeu, Caroline, quand on est pigiste. Parce qu'on ne dépend pas directement d'une seule rédaction. On travaille pour plusieurs médias. Il y a un enjeu de aussi, entre guillemets, pas se griller. Parce que est-ce que si je vais publier là-dessus, je vais pouvoir publier pour tel autre média? Voilà. Comment on joue avec ça? Comment toi, tu as réussi à composer avec cet enjeu de te protéger déjà ton travail?
Bah, je peux commencer par dire que moi j'ai commencé à faire de l'investigation à l'étranger en fait, en Argentine, en Patagonie, et j'étais tout récemment indépendante pigiste, et en fait je suis allée enquêter là-bas sans aucune commande ni projet de publication. Donc j'ai fait mon travail d'enquête, c'était sur l'accaparement de terres rurales par le groupe Benetton, puis un milliardaire anglais aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais sur un terrain très, très sensible. Mes interlocuteurs, c'était des journalistes de radio associative qui étaient menacés. Plusieurs radios ont été incendiées. Voilà le contexte. Sauf que j'étais perçue de manière assez inoffensive, je pense, par les acteurs en place. Parce qu'en fait, si j'avais pas de rédaction comme Le Monde derrière moi, ils pensaient que, voilà, je faisais mon truc dans mon coin. Et en fait, je reviens en France et je publie mon travail de manière très, comment dire, sécurisée, quoi. Voilà toute la différence entre... Et c'est la même chose quand un journaliste d'une rédac parisienne vient en Bretagne et fait son travail en ayant des intermédiaires comme Morgane, en fait. On s'expose pas du tout de la même manière. Et ouais, je trouve que c'est important de le dire, quoi. C'est le risque qu'on prend quand on travaille là où on habite ou pas, il est vraiment pas le même du tout. Et alors, pour reprendre le fil de la question, quand on est pigiste, en fait, le premier risque, il est individuellement un peu économique, parce que c'est quand même pas du tout rentable de faire du travail d'enquête. Dépasser plusieurs mois, voire un an, parfois c'est le temps qu'il faut, hein, quand on n'est pas à temps plein sur un sujet parce qu'il nous obsède, parce qu'on a envie d'aller au bout. Il y a très peu de médias, de journaux qui vont financer convenablement ce genre de travail. Et du coup, la manière, c'est compliqué d'être payé à la pige au nombre de feuillets pour ce genre de boulot. Donc voilà ce que Splend peut permettre, comme le fait Disclose, et sûrement d'autres, de pouvoir développer, de pouvoir financer convenablement ce genre d'enquête. Et quand on est pigiste, en plus, on est souvent esselé. Sur des sujets sensibles, c'est compliqué de se mettre en avant sans une rédaction qui nous soutient vraiment derrière. S'il y a des procès en diffamation, comment est-ce qu'on sera soutenu ou pas, ça pose des questions. Et encore plus quand on est, comme on dit, fixeur, comme Hélène Servel, dont vous avez parlé, où on se retrouve vraiment très seul et c'est souvent des situations qui arrivent souvent dans l'ombre. Là, il y a eu une médiatisation, heureusement, mais je pense qu'il y a beaucoup de journalistes dont on n'entend pas parler qui sont exposés à ce genre de situation. Ouais.
Et à Splend, du coup, comment vous avez aussi pris en charge cette question des risques? Je pense aussi également aux risques juridiques. Est-ce que vous avez tout simplement pris un conseil juridique dans votre budget? Comment on se blinde en fait sur des enquêtes où on sait pertinemment qu'on n'aura pas le droit à une erreur, sinon on va nous tomber dessus directement?
Advocalis, déjà, avec Adlen Peptra, Aziz ou Ziv et Gret avec Pepem Klask.
Donc, Splend travaille avec des avocats pour leur donner à lire aussi toutes les enquêtes pour être sûr que tout ce qui est dit ne sera pas envoyé, regardez comme en diffamation.
À Guspenzi, Erfin Bouzo, Kazetineren, Azo. Avec cassette de la boue de Wandaschen, d'un classe, diabas à Gavediges, diabas plan, so de ce qui paille à Casetenerienal, à Yulvat, Huzulemban, à zo ahevid Adlen Peptra, à Squazel, à Rizo Wandaschen, de la RD et d'Avad Labour Astrol.
Donc Splend mandate des journalistes pour aller faire des enquêtes, mais ils sont soutenus aussi par un conseil d'édition. Et qui relie aussi toutes les enquêtes, pour que ce soit nickel. Et les aider aussi au quotidien à mener leurs enquêtes.
Mais de Zuré, Péguir et Ken Kizidik en affaire, à la Bourdouar, d'Aoué Jean-Jalieg, à peu sorti tout rouvre ou un bonnet, d'Asquare en un classe divi, d'Aben en ammoniac. Moyennois, dim emban en huit pep embregez la bourdois pep tiferm a hementat récis a vigé disclériet gâté à ammoniac vigé dilos quel bonheur.
Donc faire très attention aussi à ce qui est dit, est publié. Donc dans des enquêtes comme celle qui a été éditée là, donc vous pouviez aussi publier la proportion d'ammoniac envoyée dans l'air par chaque ferme, en fait.
Bien pebras.
Grande ou petite.
Et vous avez choisi de pas le faire de cette manière-là?
Non. C'est-tu à PSOB divisé des cuites de vous target vers l'agribachine, nous en capeta, PSOB divisé et Kemer juste arriveras.
Donc ils ont décidé de sélectionner seulement les grandes exploitations plutôt que les petites comme ça. Il y a moins de risques.
Rag et d'au Jean Jolier, peut se pénonce hier jeu quand la bourrée en douleur à zo bien. Peut se risque l'ouvre 8 et yé, ma vezin bon et travaux spend va au chouk avec chou et elle bout start.
Donc aussi, c'est une façon aussi de protéger les petits agriculteurs qui peuvent être plus mis en difficulté que les gros agriculteurs. Donc c'est aussi un des soucis des enquêtes de Splend, c'est pas taper sur les agriculteurs coûte que coûte.
Et du coup, lutter contre le discours aussi qu'on vous accuse souvent d'être dans l'agribashing, et donc là justement faire attention à qui on s'attaque finalement dans l'agriculture.
Morgane, même salir la Bretagne.
Hein?
On est même accusé de salir la Bretagne.
De salir la Bretagne. Et comment, toi, Morgane, tu te protèges aujourd'hui, vu que toi, ça a quand même été très loin dans l'atteinte sur ton propre travail Alors que c'est quand ton travail a été relayé par un média national qu'on est venu vraiment fortement t'impacter. Quels sont, toi, tes outils pour te protéger ?
Alors moi, j'ai quand même... je suis portée par Splend aussi, parce que j'ai découvert une nouvelle façon de travailler, déjà qu'on n'est pas tout seul sur certains sujets. Après, on ne garde plus nos infos pour nous, quoi. On partage nos infos, c'est plus... Moi, j'ai l'info, lui, il ne l'a pas, on s'en fout, ça, c'est pas comme ça qu'on peut travailler bien. Et en plus, Splend a montré qu'on peut s'emparer de sujets qui ne sont plus du tout chauds, des sujets froids, c'est-à-dire ils sont loin de l'actualité, et puis les mettre en avant et créer vraiment quelque chose de très intéressant. Alors moi, comment je me protège ? Donc Splend, ça m'aide beaucoup, ça me porte. Moi, on m'a dit de mettre des caméras chez moi, des serrures, des machins, de mettre que des boulons anti-vol aussi sur ma voiture, enfin bon, n'importe quoi. Et je trouvais que c'était un trop gros sacrifice par rapport à ma vie privée, en fait, de tout changer, parce que c'est pas moi, enfin c'est pas ni moi ni mon lieu ne ressemble à ça. Donc j'ai refusé ça. Et dernièrement, je suis allée à la manif des Porchers à Saint-Brieuc. Là, c'était chaud, hein, parce qu'il y a une crise porcine forte. C'est pas dur. Je suis restée au moins 5 heures sur cette plage. J'ai fait tout le tour de la place. Et au début, il y avait aucun qui voulait parler, mais à aucun média, aucun éleveur. À la fin, ils ont tout le monde parlait. Tout le monde a échangé avec moi, et le seul souci que j'ai eu, c'est en toute fin de soirée, pendant les discours et pendant le discours de l'UGPVB, l'Union pour la viande bovine en Bretagne, j'avais mon micro qui était tendu comme ça, voilà, pour prendre le son de la scène, et j'ai senti un coup dans mon dos, je me suis pas trop fait gaffe, j'ai ressenti un coup, et là je me suis tournée, et il y a un gars qui m'a dit, qui était tout masqué, qui m'a dit... Toi, on te connaît, tu poses pas de questions. Parce que je venais de poser une question au président de l'UGPVB. Et je voulais quand même que mon son soit bon, donc j'ai pas tourné mon micro vers ce gars-là, mais on l'entend un peu sur la bande, et je lui dis, quoi, je suis journaliste, je pose pas de questions, enfin, c'est quoi cette histoire, quoi. Il me dit, non, on te connaît, tu poses pas de questions, t'as pas le droit de poser des questions ici. Je dis, mais je fais mon métier, enfin, mon métier, c'est de poser des questions. Enfin, toi, tu fais ton métier, moi, je fais mon métier. Enfin, je sais pas si je l'ai tutoyé. Et puis après, je lui ai demandé d'enlever son masque pour que je le voie, et il a pas enlevé son masque. Mais c'est vraiment le seul problème que j'ai eu. Et même les gens qui étaient autour de moi, que j'avais interviewé avant, ils étaient très surpris que je puisse être prise à partie de cette façon-là. Enfin, voilà, c'est quand même... C'est des gens puissants, mais minoritaires. Et moi, ça me rassure aussi de me dire que je peux encore aller dans une manif et je me fais pas taper dessus, quoi. Et dernièrement, j'ai croisé un paysan aussi, il me dit, mais... On discute, il était sur son tracteur, puis il me dit, mais... Vous n'êtes pas la fille, là, Radio Crayzoin ? J'ai dit, si, c'est moi. Elle dit, je devrais vous casser la gueule, alors. Je dis, ouais, non, peut-être pas aujourd'hui. Il dit, mais non, je rigole. Enfin, je devrais vous casser la gueule, ça veut dire que c'est quoi le mot d'ordre, quoi ? D'où ça vient, enfin, tout ça. C'est assez inquiétant, quand même. Voilà. Mais bon, heureusement, les gens sont raisonnables et ils continuent de réfléchir. Tant mieux pour nous, pour moi, pour Splend. Voilà.
Dans un pays démocratique et particulièrement équilibré au niveau des équilibres des pouvoirs. Je voulais savoir aussi quels conseils peut-être, parce que dans la salle, je pense qu'il y en a certains qui aimeraient faire la même chose, d'autres comme moi qui essayent plus timidement, même si on n'a pas le réseau de journalistes bretons. Quels conseils vous donneriez à des jeunes ou moins jeunes journalistes qui veulent faire de l'investigation sur un territoire où ils vivent, par exemple, et sur des sujets dont ils savent que c'est pas forcément le truc qui est attendu, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux camarades et collègues?
Berber, Erfrazen, passe n'a jamais quitté les Noël, c'est tout.
Donc, rapidement, ne restez pas tout seul, surtout.
Très bon conseil.
On rappelle qu'il y a des collectifs de journalistes qui se sont montés un peu partout dans le pays, alors plutôt dans les villes, et que effectivement ça aide beaucoup, tu l'as dit, de partager les informations, parce que du coup c'est moins difficile. Au niveau international, il y a eu même sur des choses plus graves, avec des journalistes dans le monde qui ont été assassinés. Et du coup, il y a des consortiums de journalistes qui se sont créés.
Forbidden Stories, par exemple.
Voilà, Forbidden Stories, c'est ça, qui permettent de poursuivre les enquêtes sur lesquels les journalistes, je pense à une journaliste à Malte, j'ai plus son nom en tête.
Et Regina Martinez, il y avait une Mexicaine là, sur laquelle ils ont travaillé. Là.
Et il y a une Mexicaine aussi. Et donc poursuivre votre travail pour bien montrer que bah, même si jusqu'à l'extrême, ça va jusqu'à tuer quelqu'un pour son travail de journaliste, eh bien, le travail de lui-même ne sera pas arrêté et se poursuivra. C'est quand même des initiatives encourageantes, même si ça fait froid dans le dos. Mais bon, avant, il n'y avait pas ça. Avant, il y a eu aussi des enquêtes qui se sont arrêtées parce qu'on a fait arrêter les gens. Peut-être Caroline, je ne sais pas, toi, dans ton travail, qu'est-ce qui t'aurait manqué peut-être ou que tu aurais eu intérêt à avoir plus tôt dans ton travail d'enquête pour t'aider?
Bah, je vais dire la même chose que Gwenvel, hein, c'est toute la différence est entre travailler de manière esselée ou être avec, enfin avoir une équipe derrière soi. Et puis une équipe, même quand on est pigiste et qu'on a des rédacteurs en chef bienveillants, sur des travaux d'enquête assez longs, moi j'ai jamais eu un accompagnement comme celui que j'ai pu l'avoir avec Splend. C'est hyper important et ça fait du bien. On se sent, même si on n'a pas le besoin, en tout cas on se sent protégé et soutenu. Donc je regrette pas de ne pas l'avoir eu plus tôt, je suis surtout contente de l'avoir trouvé aujourd'hui, mais ouais, voilà principalement ce que je peux dire. Après Ne pas rester seul, oui, c'est important. Et il y a des techniques d'enquête qui sont importantes de partager aussi entre pairs. Donc, je parlais tout à l'heure de tout ce qui est donné en source ouverte.
On appelle OSINT en anglais.
Ouais, voilà. Et puis, s'il y a des soucis, des menaces, des tentatives d'intimidation, de les exprimer, d'essayer de les visibiliser, les médiatiser tout de suite, en fait. Je pense que c'est très important. Et je pense que c'est Morgane, tu pourras le dire aussi.
Moi, j'ai porté plainte quand même. Enfin, j'avais jamais porté plainte de ma vie. J'avais déposé une main courante la première fois qu'on est venu chez moi, puis la seconde fois, j'ai fini par porter plainte sur deux volets. Un volet pour dégradation pouvant entraîner des blessures, et un autre volet que je trouvais très important, c'est atteinte à la liberté d'expression. Et la plainte, elle aboutira peut-être pas. Déjà, le temps de la justice est très long. Moi, j'ai été auditionnée, mars, avril, mai, juin, juillet, cinq mois plus tard. La première fois que j'ai été auditionnée par un juge, c'était 5 mois après. Ça a duré 3 heures. Mais le fait qu'il y ait une enquête qui soit ouverte, ça veut dire qu'il y a un commissaire de police qui auditionne des gens. Et être auditionné, c'est pas anodin. C'est une forme de rappel à la loi aussi. Parce qu'on est, nous, on évolue et on travaille dans un monde où, il y a une réalité économique assez tragique. Hein. Le centre-Bretagne, c'est quand même la fuite des services publics, des aires médicales, et puis l'agro-industrie qui grossit comme un crapaud, là, et qui est très puissante. Eh bien, ça constitue aussi, on a l'impression qu'il y a un ordre social qui est établi par l'agroalimentaire, par chez nous, qui dicte ses propres lois. Eh bien non, là, il y a ce commissaire qui auditionne des gens, comme le monsieur que vous avez entendu tout à l'heure, comme certains hommes politiques aussi, et c'est une forme de rappel à la loi. Donc même si on ne trouve pas qui est venu chez moi, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est très important qu'on trouve qui est venu chez moi, il y a un rappel à la loi et on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à un journaliste.
Et on rappelle, oui, que dans ton travail au quotidien, tu ne fais pas que non plus les sujets agroalimentaires.
Non, je vais relever le...
Les services publics, les luttes sociales, les luttes culturelles, enfin voilà.
Tout je travaille dans une petite radio, je fais tout. Hein. Je vais dans les châteaux d'eau relever le compteur d'électricité comme hier. Voilà. C'est bien d'avoir ce plan justement pour faire de l'investigation, parce que moi, on me demande de produire tous les jours, de changer de sujet, de faire du généraliste, de faire de l'institutionnel, d'aller faire un truc avec l'Office du tourisme, enfin bon, plein de choses. Et justement, quand on mène des travaux un peu plus longs, bah c'est sur notre temps personnel et c'est pas payé. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant qu'il y ait des médias comme Splend qui existent.
Merci beaucoup. Et puis du coup, je vous propose de prendre un temps et d'échanger avec la salle. J'imagine que vous avez certainement les unes les uns des questions. Madame au fond, peut-être. Alors, pour Covid, etc. Posez la question et puis on va la répéter. Ouais. Alors, je vais juste donc synthétiser la question, tout le monde a entendu, mais c'est pour l'enregistrement, voilà. Donc une personne dans la salle témoignait que elle remerciait Splend pour son travail et saluait la volonté d'appeler au collectif pour pas rester seule, mais qu'elle était assez effarée de voir au quotidien, notamment sur les sujets écologistes et féministes, si je ne me trompe pas, le nombre de personnes qui sont seules et qui subissent des intimidations et qui vivent ça au quotidien en étant seules. Je vous laisse répondre.
Non, juste ne ce qui met dans l'écologie tête, notamment caséténérienne, ni on ne chance caséténérienne de vous de guariser d'un temps par un dro, mais de paysan tête, j'onge d'in, pas vite des heures paysan, à ça, à enep, à coopératif, à herel boostart, à scal startor, get pis, vbe, vegenim.
Donc, ce que dit Gonvel, donc, bon, les journalistes ont de la chance parce qu'ils peuvent être aussi protégés, peut-être pas par les lois, ou, etc. Mais par contre, la situation des agriculteurs qui veulent dénoncer certains sujets sont quand même beaucoup plus fragiles et mis plus en danger quasiment, quoi, parfois.
À du monde modal, il y a Brice, mes uroir, et un temps même ce modier, les rival. En hiver, à Destillou, Véro et Dim, Tud Guasket, Blanc de. Blonde de ma vie de coopérative au Stoma NFTP et Bouzobern a testé ou Fulstré.
Donc il y a beaucoup de témoignages de la part des agriculteurs ou autres qui ne sont pas forcément publiés.
Et il y a de l'agroalimentaire aussi.
Voilà. Donc,
témoignages.
Beaucoup de témoignages, mais qui ne sont pas publiés parce que les gens ont peur.
Ah non, non, mais là c'est. Et là, notamment dans l'agroalimentaire, quand il y a des ouvriers qui témoignent, ils ont extrêmement peur. Par exemple, je vais parler d'Inès Leroux, qui a fait une enquête sur Cheritel, un industriel guingampais, qui étiquetait des tomates qui venaient d'Espagne française. Il les étiquetait françaises, et puis il a été aussi condamné pour du travail dissimulé de salariés étrangers. Eh bien... elle a recueilli des témoignages, elle a assuré aux gens qu'elle maintiendrait leur anonymat. Et lorsque Cheritel a fait un procès en diffamation à la suite de son travail qui a été donc publié sur Basta, le procès en diffamation l'obligeait à désanonymiser ses sources. C'est-à-dire qu'un témoignage anonyme n'a pas de poids devant un tribunal. Donc il lui fallait la carte d'identité, copie de la carte d'identité des gens qu'elle avait interviewé, en fait, alors qu'elle leur avait dit Et finalement, Cheritel se retire sa plainte à 3 jours de l'audience. C'est vraiment le truc pour déjà surcharger les tribunaux, précariser les journalistes qui ne peuvent pas bosser pendant ce temps-là parce qu'ils sont en train de préparer leur défense. Et c'est des dizaines de photocopies, des machins, de recueillir des témoignages. Et au bout du compte aussi, donner des infos à la partie adverse qu'on n'a pas envie de donner, quoi.
C'est ce qu'on appelle les procès Bayon. D'ailleurs, il y a un groupe médiatique, Bolloré, qui est spécialiste de ça. Et donc, ça ne touche pas que l'agroalimentaire. Ça touche les opérations, par exemple, de France-Afrique. Ça touche la concentration dans certains groupes industriels. Voilà, ces intimidations se retrouvent aussi dans la presse économique quand tu enquêtes sur des groupes automobiles ou des choses comme ça. Voilà. Je veux dire, c'est, y a pas non plus une spécificité agroalimentaire. Par contre, vous êtes particulièrement, effectivement, nombreux et nombreuses à travailler sur ces sujets-là, notamment en Bretagne. Caroline ?
Non, en fait, je pense à un exemple très, très récent. C'est alors le journaliste dont je suis désolée, je ne me rappelle pas de son nom, qui vient de sortir un livre et une grande enquête sur les EHPAD, la gestion privée dans les EHPAD. En fait, on lui a quand même offert 15 millions d'euros pour arrêter son travail.
Et il ne les a pas acceptés.
Il ne les a pas acceptés. En l'occurrence, là, c'est un homme et il travaille sur un autre sujet que l'agroalimentaire. Mais à partir du moment où on s'attaque à des groupes privés comme ça, où il y a des enjeux, des rapports de force et de pouvoir énormes, en tant que journaliste, oui, on doit sans cesse, assumer, défendre sa liberté de travailler et de s'exprimer. Mais je pense que des exemples comme ceux-là sont nombreux, et dans tous les domaines.
Après, est-ce que, comme vous le disiez, est-ce qu'il n'y a pas aussi on a une phase où l'investigation a longtemps été, déjà beaucoup des hommes, en tout cas ceux qu'on entendait, c'était des hommes seuls, et puis avec un profil très viriliste, on pourrait dire, de ce sujet-là. Qui étaient dans des rédactions, un peu les hommes de l'ombre, les barbouzes. Enfin, il y a eu beaucoup cette image de l'investigation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle change, notamment avec des projets comme Splend, avec Disclose, avec des collectifs de journalistes, et que peut-être, il y a toujours eu peut-être des gens qui étaient dans le silence, y compris des journalistes qui ne pouvaient pas travailler sur ces sujets-là. et que justement là on a des outils aujourd'hui plus collectifs qui permettent peut-être de mieux travailler, ou je suis trop optimiste peut-être, je sais pas. Morgane,
Moi, il y a quand même quelque chose que les gens ne supportent pas, et ils ont assez raison, c'est la connivence entre les journalistes et le pouvoir, et la politique. Enfin, moi, je peux difficilement parler d'autres sujets, et notamment des sujets économiques, mais en ce qui concerne la presse agricole, quand j'ai discuté avec des gens qui étaient en charge de la page agricole à Ouest-France, et que je leur demandais s'ils n'avaient pas subi des pressions, ils me disaient « Oh, on s'engueulait, puis après on allait bouffer au resto, quoi. » Enfin, moi, je ne vais pas au resto avec ces gens-là, enfin... Voilà, Hubert Coudurier, à son anniversaire, dans sa villa à Carantec, Hubert Coudurier, donc le Télégramme, il y a Richard Ferrand, il y a Jean-Michel Blanquer, il y a François de Rugy. Enfin, voilà, typiquement, nous, on n'a pas le profil à aller dans les restos 3 étoiles. Enfin, voilà, c'est tout. Ouais, on mange des crêpes à Rostron, hein, voilà, c'est sur le marché, en plus, à dehors.
D'autres questions ? Madame. Alors, le modèle économique de Splan et des ONG d'investigation.
Et on doit être à la voie de ce même signe à disclose, de l'aider via Roe d'Arandim, Gandandut, Gonohuit.
Donc le modèle économique, c'est le même que disclose, c'est qu'on Splan s'appuie sur les dons des personnes qui souhaitent aider le. L'association. On peut le faire aussi sur Internet. C'est un peu plus moderne que la boîte Caroline, mais c'est pas mal quand
ça,
même.
La modernité,
ça vient tout droit du centre-Bretagne.
On rappelle, vous avez réussi votre campagne de collecte, d'ailleurs.
À 100 000 euros, dit Nord de Blavessier.
100 000 euros ont été récoltés en une année.
On dit fort à Gazo quand disclose. Quand disclose, vous tapez de Karzig à Rand de ce. Kevredigacho philanthropique qui se m'avait l'aide. Gunumni et Dreistol en dut.
Donc la différence avec Disclose, c'est que Disclose bénéficie de l'argent de certaines associations philanthropiques, et aussi des gens, mais Splan, pour l'instant, n'a pas cet argent-là. Mais
en dut, Dreistol, quoi.
C'est d'abord les individualités, comme vous, madame, si vous voulez.
Mais Modal a fait de. On a rendu Véroïd Gondud, mais ça après l'abord à Yulva, dit Véguet, dans la réalité, Végoprut a réseau Varandachen, Kazetenéen, Kazetenéen, au labour à Varandachen, mais tout de peu reste de l'abord à Saprehini, Végrid Gondud à Yulva.
Donc une grande partie du travail aussi effectué par les bénévoles. Donc il y a des journalistes qui sont rémunérés, comme les bénévoles, comme Gwenvel. Mais autrement, il y a un gros travail, notamment pour récupérer ces 100 000 euros qui étaient faits par les bénévoles de l'association. C'est une association aussi, Splan. Donc c'est aussi la base, et c'est une particularité peut-être bretonne, hein, Gwenvel, parce que l'associatif en Bretagne est fort.
Plige Radim, la bourre de cuite de Gadar.
Ouais, il aime bien travailler sans gagner de l'argent. C'est la différence.
C'est pour ça qu'on fait de la radio. C'est pour ça qu'on fait de la radio.
Alors, la question, c'est est-ce que 100 000 euros, pour vous, c'est un succès à Splan ?
Il y a un vote ?
Oui. Oui, bien sûr.
Mais un temps, Erfin, un temps à Drugaré, d'Aris, au Bédo, au Tivunte, au Rojou, Morgan Large, à Gomdigoué, dans Marais, l'air ma. Ma wawaris, que j'ai eu, tu as bien en agro-business, ma brise. Pesnawake, ne peut blaver, je vous en.
Donc c'est un succès, et c'est un peu aussi grâce aux personnes qui sont allées démonter les roues de la voiture de Morgan Large il y a quelques mois.
Est-ce que c'est pas juste en plein milieu. Qui a fait le coup, en fait.
C'était aussi un peu à la mode de parler de ces sujets-là, enfin, c'est toujours.
Peut-être rajouter que, pour donner un ordre d'idée, quand Mediapart s'est créé, c'était un peu plus d'un million d'euros qu'ils ont monté, et quand Mediacité, qui est un autre système d'investigation qui s'est construit sur Civil, j'en parle parce que j'ai travaillé un peu avec eux, Toulouse, Nantes, Lille, Lyon, quatre villes, et d'autres viendront, eh bien, c'était 300 000 euros, la levée de fonds nationale, avec l'idée de, on est dans différentes villes, et donc on a des investisseurs, certes, de certaines villes, mais qui ont des intérêts, qui n'ont pas des intérêts dans d'autres villes. Et donc, chacun finance l'enquête. Bon, ils ont encore fait une campagne de dons cette année pour s'en sortir d'abonnement. Mais voilà, ça reste fragile, mais c'est vrai que 100 000 euros, ça vous permet de tenir combien de temps, en fait, globalement, là ?
Combien d'enquêtes, quoi.
Combien d'enquêtes?
Er finn zo be payet un enklask hag ezo trial warenk.
Donc il y a une enquête qui a été payée grâce aux... Non, c'est pas les 100 000 euros, mais et donc ça va permettre de financer trois enquêtes qui sont en cours.
Et de... Il y a un mot où je pense à même stra. Mais il y a quelqu'un à Aran Redim et Talvié, zo be Berntut Babreis, me dit Eba Boyoal, mais Berntut Babreis, Agawa, au Hortos, vigé de Zoractrice Mons. A Dava, donc, be Dougenet, quand on dut, Evel ma VFM au Kemer Pers, bar ze Lusk, une drase au change pas précis.
Donc, si ce plan a réussi à récolter autant d'argent, c'est parce qu'il y a aussi une attente de pas mal de gens en Bretagne, mais ailleurs aussi. Donc, c'est aussi un mouvement qui est dans la société qui a permis cette levée de fonds.
Alors, allez hop. Alors, la question c'est est-ce que c'est pas un problème que. Ce sont les citoyens qui financent systématiquement ces enquêtes-là, ces médias-là. Notamment, il y a aussi ce fonds pour la presse libre qui est en train d'être créé, mais qui est aussi financé par des citoyens. Est-ce que ce n'est pas une mission de service public, en fait, de devoir faire ces enquêtes-là?
L'info est un bien public, déjà.
L'info est un bien public. Oui, mais il n'est pas financé forcément par les aides à la presse. Je veux dire, Splane n'a pas d'aide à la presse, et je ne pense pas que vous allez les demander.
Pas quoi l'êtes-vous, mais Bétigin, vos kégrides, non? Mais gégé a dû un gant de bredar, mais pezo choix d'obarier, ma vegolène et d'arhan digan a rendre au lacom, a zo arhan public. Bah, mais fin, gis pez moi la red bremag, a rendre a zo presse d'arrêt per million d'aureden, d'a la aide, vel radio you gis. Radio Yubin, pétamment de médias Yubin, je sais. Peut-être risque-lou, vous qui m'avez gagné, mais il y a à fait de gouask. Zézo, ça précue de nier. Zur, mais au high squeeze, il y a derrière un vie cas de nous bras ou à gal, mais. Force pénon, ça service boutin, n'est qu'il m'a essayé à risque et nobel.
Donc le problème, c'est aussi. Donc Gwenval est d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais si on reçoit de l'argent public de la région, par exemple, la région elle peut aussi donner 5 millions d'euros à Eureden, donc c'est sur plusieurs tableaux. Et les journalistes aussi pourraient avoir plus de pression sur eux s'ils étaient financés par l'argent public, quoi, notamment en Bretagne. Quoi.
Les subventions, effectivement, posent aussi d'autres soucis. Il faut réfléchir à d'autres formats, ce qui était dit. Alors, on va arriver bientôt au bout. Donc, une ou deux dernières questions, peut-être, madame?
Et Splane, c'est gratuit. Hein. L'accès, le monde, il y a un accès payant. Quoi. Enfin,
là, une dame voilà, dit que,
nous,
effectivement,
on met à disposition gratuitement nos enquêtes.
Le monde, effectivement, fait des enquêtes déjà, notamment sur l'environnement. Pourquoi créer une ONG et pas une association et pas juste un média?
Et Erfin est nommé une affaire qui est ONG. Qu'est-ce que
vous? Donc, c'est une question de communication, une ONG ou une association? C'est la même chose.
Mais on peut.
8 d'Omni, bah, statut joué, même stra.
Dans les statuts de l'association, c'est la même chose. Loi 1901.
Après, on peut peut-être préciser, je ne sais pas si ça a été fait, que, en fait, nos enquêtes sont publiées à travers des partenariats avec d'autres médias. Là, en l'occurrence, il y a eu Mediapart, France 3 Bretagne, le réseau des radios associatives en langue bretonne. Donc, c'est aussi ce qui nous distingue d'un média. On préfère dire. Enfin, on est une ONG. D'investigation, on produit de l'investigation, mais on n'est pas un média en tant que tel, puisque en fait, on existe, enfin, nos enquêtes peuvent être lues de manière gratuite à travers des partenariats avec d'autres médias amis. Voilà, c'est ça aussi qui fait notre définition.
Dernière question. Alors, une question vraiment sur. Et quel impact, en fait, de tout ça?
Airbrace, par
une
exemple.
Une vraie question qui se pose d'ailleurs pour les investigations aujourd'hui, être journaliste d'impact.
Les capteurs d'air, là.
Ah oui.
Et comment on se démoralise pas en voyant le peu d'impact?
En tout cas, par rapport à l'enquête sur l'ammoniaque, on était assez satisfait d'apprendre que l'association de surveillance de la qualité de l'air, Airbrace, a pu obtenir un financement très important pour acheter un, voire plusieurs, je ne sais plus, nouveaux capteurs. Pour mesurer la teneur en ammoniaque dans l'air en Bretagne, notamment grâce aussi au travail qu'on avait pu faire. Ça les a aidés. parce que eux, ça fait des années qu'ils demandent des subventions et qu'en fait, l'ammoniac n'était pas encore considéré comme suffisamment préoccupant pour qu'on leur donne cet argent-là. Donc là, par exemple, c'est vraiment typiquement le genre d'impact qu'on souhaite avoir. On aime dire qu'on croit en un journaliste de transformation sociale aussi et d'intervention, qu'on se place aussi à cet endroit-là où ce sujet-là, comme la pollution de l'air, peut être investi par les citoyens et à travers la mobilisation sociale, la médiatisation, amener à des changements, des nouvelles réglementations, voilà, pouvoir faire pression aussi sur les pouvoirs publics quand il y a de l'inaction, quand il y a de l'inertie, quand il y a
des angles morts.
Ouais, des angles morts, voilà, c'est ça. Ouais.
Mm. Moi, j'avais fait une enquête sur le poulailler de l'Anguélan, oui. Mais...
Oui, alors, ah ouais. C'était, je crois pas que c'était à l'Anguélan. Plaudrin.
Ah ouais, c'est Plaudrin, ouais.
Oui, 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 effectivement. Un collectif de riverains, donc ton militant qui souhaitait en fait lutter contre la mise en place d'une grande ferme usine, un poulailler côté de chez eux, ont pu aussi mobiliser notre enquête comme un élément bien sourcé pour amener des chiffres sur les risques que cette implantation pouvait avoir sur leur environnement. Et donc je me rappelle plus du résultat, mais en tout cas ça a été très important et c'est aussi ça qu'on souhaite, c'est de pouvoir donner des outils d'informations claires, précises, sourcées pour éclairer en fait tout un chacun défendre des sujets comme ceux-là.
L'épuisement des sujets là. Moi, j'ai pas trop peur de ça. Enfin, nous, on est là pour faire remonter les enjeux qui traversent la société et pour en parler. Moi, j'ai pas du tout peur de ça. Enfin.
Han ma uspena doudra. Erfin aher was okajel diaben trau lehel med erfin ganomni amaremans okazetenean gopret babroyoalie dalarede apiso tremen babreis azolian met ganandoare de doaremonendro erbe dabis. Vous osez.
Donc, si j'ai bien compris, Splend aussi travaille avec des gens qui travaillent à l'étranger, en dehors de la Bretagne et de la France. Et donc, le travail effectué par Splend va au-delà des frontières de la Bretagne, de toute façon.
Et en Médé.
Tout est lié. Le problème de l'ammoniac, c'est peut-être se pose ailleurs aussi qu'en Bretagne.
Ah, juste voir, tu as bien un pays de digoué de goudé en enclasque. Guéchal, à Dibaoué, Nobet Blavéjou, Vé Combs, tu as ben Beijing Glass, pas Brace. Vraiment, Vé Combs, tu as ben en ammonia, Gonandut, Mosse, Bastrejou, Bahazetenou, Pesnawake, Dorblasso. Sais-tu, Zizotrao, avait Silet Bargevedig et Serfin.
Donc, ce sont tous cette enquête sur l'ammonia qui a permis de mettre le problème sur la table, en Bretagne, dans la rue, etc. Et parce que c'est vrai que récemment, les problèmes environnementaux étaient surtout axés sur le problème des algues vertes. Et donc ça, l'ammoniac est devenu un deuxième thème aussi important en Bretagne et ailleurs sûrement, parce que c'est lu par d'autres gens que les Bretons. Quoi.
Un dernier mot, Morgane, Caroline? Ah bah oui.
Secret.
La suite, les enquêtes en cours.
C'est secret, les enquêtes.
Bah, les enquêtes en cours, il y en a, mais bon, c'est pas le moment ni l'endroit ni, enfin voilà, de dévoiler les sujets.
D'accord.
Mais il y aura du nouveau en 2022, c'est sûr.
À suivre donc sur le site splan.org.
Splan.org et puis voilà, il y a une petite boîte si jamais vous avez envie de mettre une petite pièce. Et merci beaucoup.
Et ben merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.
Le 19e festival Longueur d'onde aura lieu du 1er au 5 février 2023 à Brest.